ça va être une révision pour certains, une découverte peut-être pour d'autres. En tout cas, c'est, on peut dire, tous les fondements du Dharma en 40 questions. Donc, c'est pas mal des fois de revenir. Alors, première question, quelles sont les quatre nobles vérités? Je précise, les quatre nobles vérités, c'est le premier enseignement que le Bouddha a donné à Sarnath, au parc des gazelles, près de Bénarès. Et ce premier enseignement forme l'enseignement de base, c'est la doctrine bouddhiste, hein, c'est les quatre nobles vérités. Alors, oui?
La vérité de la souffrance.
La vérité de la souffrance.
Les causes de la souffrance.
Les causes de la souffrance.
La cessation de la souffrance.
La cessation.
Et comment? Le chemin.
Et le chemin qui conduit à la cessation. Tout le monde est d'accord?
Yes.
Bien. On va développer. D'abord, et ça répondra à la question numéro 2, hein, le mot sanskrit que l'on traduit par souffrance, c'est dukkha. Dukkha. Et le mot souffrance est une traduction approximative, réductrice, on va dire. Que veut dire le mot dukkha? À la fois la souffrance physique, la souffrance morale, mais plus encore. L'insatisfaction, la frustration, le mal-être. Hein. Et c'est important de se souvenir du sens de dukkha et peut-être de garder le mot sanskrit dukkha plutôt que d'utiliser le mot souffrance. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout familières du bouddhisme et qui quelquefois me disent « Oh là là, mais dans le bouddhisme, vous êtes toujours en train de parler de la souffrance. » C'est un peu lourd, c'est une voix qui leur semble un peu pessimiste, etc. Et il est vrai que si on garde le terme souffrance, on se dit, mais je ne suis pas encore trop vieux, la souffrance de la vieillesse, bon, je ne connais pas. Aujourd'hui, je ne suis pas malade, donc la souffrance de la maladie, je ne la connais pas, donc je n'ai pas rencontré dukkha depuis ce matin. Or, dukkha, insatisfaction, frustration. Est-ce que l'on n'a pas rencontré dukkha? Ben si, je crois que tous, autant que nous sommes là ce soir, depuis ce matin qu'on a ouvert les yeux, on a rencontré à plusieurs reprises dukkha. Hein, notre collègue de travers qui nous a regardé de travers, notre conjoint qui nous a fait une petite réflexion pas sympa ce matin... J'en sais rien, je n'en ai pas, mais ça peut arriver, je suppose. Hein? Le temps qui ne va pas comme on voudrait que ça aille. Plein de choses nous ont peut-être contrariés depuis ce matin. Et ça, c'est la première des quatre nobles vérités. C'est-à-dire, le Bouddha expliquait que dukkha est partout et tout le temps. Et c'est pourquoi il faut élargir le sens de dukkha. Hein? Pas seulement voir les quatre grandes souffrances du monde humain que décrivait le Bouddha, à savoir la souffrance de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Mais il y a le fait d'être obligé de côtoyer des situations qui nous sont défavorables ou pas agréables, d'être séparé des êtres avec qui on aimerait bien être, hein? Des êtres que l'on aime par exemple, et puis toutes ces petites insatisfactions de la vie quotidienne, voilà. Et ça, ça fait partie de dukkha. Donc cette première noble vérité, eh bien, c'est une expérience que tous les êtres font, et pas seulement quelques individus, mais tous les êtres, à longueur de journée, eh bien, éprouvent dukkha, rencontrent dukkha. Donc, il faut se rappeler que cette première noble vérité ne répond pas à des questions telles qu'on pourrait se poser au sujet de la création du monde, l'origine du monde, est-ce qu'il y a un créateur, pas de créateur, etc. En fait, ça n'est pas considéré comme des questions primordiales pour un pratiquant bouddhiste. Un pratiquant bouddhiste, eh bien, il doit constater qu'il éprouve dukkha. Or, nous cherchons tous à nous protéger et à nous libérer de dukkha. À longueur de journée, nous cherchons à nous protéger de dukkha. Regardez tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on s'habille? C'est se protéger du froid. Pourquoi est-ce qu'on mange? Et pourquoi on a décidé telle ou telle chose aujourd'hui? C'est toujours pour se protéger de dukkha. C'est-à-dire que non seulement on cherche à se protéger de dukkha, mais il y a une quête de mieux-être, une quête de bonheur, une quête de quelque chose de mieux. Et cette quête du bonheur n'est pas propre, là encore, à quelques individus. Elle touche absolument tout le monde. Même les animaux ont cette quête-là. Vous approchez une flamme d'un insecte, il n'a qu'une envie, c'est de se tirer de ça. Il n'y a pas un individu, pas un être, disons un être, il n'y a pas un être qui cherche à souffrir, mais par contre, on cherche tous à ne pas souffrir, à éviter de souffrir. Et regardez toutes les décisions que nous avons prises dans notre vie. Tout ce que nous avons décidé, fait, ce qui a déterminé certaines orientations de notre existence, etc. Pourquoi est-ce que nous avons fait ces choix? Pour être heureux. C'était notre conception du bonheur, et on a fait ces choix. Si vous avez décidé de faire une famille, pour ceux qui ont fait une famille, on ne vous obligeait pas. Hein. Vous avez quand même décidé de faire une famille parce que rencontrer quelqu'un, aimer quelqu'un, c'était votre conception du bonheur. Avoir des enfants, c'était votre conception du bonheur. Bon, ça peut se modifier. Hein. Quelquefois, on peut se dire j'ai fait une erreur, je suis d'accord. Mais quand on l'a fait, en tout cas, on avait cette perspective-là. Hein. Notre situation professionnelle, tout ce que nous pouvons faire au niveau loisirs, vacances, etc., c'est quand même pour être heureux. Si vous partez à l'autre bout de la terre sous les cocotiers, c'est pas pour cuire au soleil, parce que c'est parce que ça vous fait du bien, quoi, etc., etc. Donc il y a cette quête du bonheur. Or, nous souffrons. Or, nous rencontrons, malgré notre désir de libération, nous rencontrons dukkha. Et ça, c'est quelque chose de très pragmatique. Hein, et là encore, personne ne peut dire que malgré toutes nos décisions, toutes nos conceptions de bonheur, etc., nous sommes totalement heureux. Quoi. Alors qu'on le voudrait. Donc nous devons absolument, comme je dis souvent sous forme de bouddha dans les enseignements, un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui en a marre d'en avoir marre. Il faut un jour se dire, mais j'en ai assez de ça, quoi. J'en ai assez de cette situation. Le problème est qu'on négocie beaucoup et on fait avec. On se dit, mais c'est ça la vie, après tout, ça ne peut pas être parfait. Voilà. On accepte, on se résigne d'une certaine façon. Je crois qu'un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui ne se résigne pas à la souffrance, pour lui-même et pour autrui. Et évidemment que pour se libérer de cette souffrance, nous devons en rechercher les causes. Et ça, c'est la deuxième noble vérité, l'origine. Et c'est, à mon sens, c'est la noble vérité la plus importante. C'est vraiment de rechercher la cause de dukkha. Parce que tant que nous n'avons pas identifié la cause, et tant que nous ne sommes pas sûrs que la cause c'est bien cela, eh bien nous allons toujours attribuer la cause de notre dukkha, de notre expérience, de mal-être, etc., sur les autres, ou sur l'ensemble des phénomènes. C'est l'autre qui m'a mal regardé, c'est l'autre qui m'a mal parlé, c'est le temps, c'est la politique, c'est l'économie, c'est mon job, c'est ça ne va pas, c'est parce que je suis vieux, c'est parce que je suis malade, c'est parce que c'est ça, c'est parce que j'ai ça, etc. Plainte et jérémiade, on n'entend que ça. Mais dans les plaintes et jérémiades, vous n'entendez jamais, il faudrait peut-être que je change quelque chose chez moi, quoi. C'est toujours l'autre, l'ensemble des phénomènes. Et que si c'était l'autre qui était différent, alors ça serait nettement mieux et je m'en porterais bien mieux. L'origine de dukkha, d'après le Bouddha, eh bien ce ne sont pas les phénomènes qui sont la cause principale de dukkha, de l'apparition de dukkha dans notre esprit. Évidemment que si on modifie des situations, ça peut quand même aller mieux. Ça, je suis bien d'accord, et je pense que tout le monde, en tant que bouddhiste, est bien d'accord. Mais dans l'enseignement bouddhiste, c'est vraiment de considérer que la cause est dans mon esprit. C'est-à-dire, c'est d'une certaine façon, c'est moi qui crée la cause de ce mal-être. Vous avez des personnes qui ont toutes les conditions matérielles, par exemple, pour aller très bien, et qui ne vont pas bien. Et vous avez des personnes qui ont 50 fois moins de conditions favorables, pour qui, eh bien, il semble que la vie est mieux, et que, en tout cas, ces personnes sont nettement plus détendues, plus paisibles et plus heureuses. Ça veut dire que c'est notre esprit qui crée dukkha. Et c'est la façon qu'a notre esprit de réagir par la rencontre de telle ou telle situation. Et ça, c'est mais primordial de comprendre ça en tant que bouddhiste. Rinpoche Rinpoche rappelle souvent que méditer veut dire transformer la façon de réagir par rapport aux situations que l'on rencontre. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que par le fait de méditer, la libération, ça vient de la disparition des circonstances défavorables. Mais le Dalai Lama lui-même, il a 81 ans. Il doit quand même avoir de l'arthrose, il doit avoir tous les problèmes, il doit rencontrer tous les problèmes dus à son âge qu'une personne de 81 ans peut rencontrer. Et tout Dalai Lama qu'il est, quoi. Lorsqu'il est malade, il est malade. Il ressent la maladie. Il a des pensées qui continuent de s'élever dans son esprit. Et quand il était à Bâle, dernièrement, quelqu'un, paraît-il, lui a posé la question, est-ce que il vous arrive d'avoir encore de la colère? Il a dit oui. Donc ça veut dire que son esprit fonctionne comme le nôtre. Et qu'il n'y a pas d'une espèce d'état d'esprit intérieur totalement différent de notre esprit. Il y a une chose qui a disparu chez lui, c'est la façon de réagir par rapport à ce qu'il rencontre comme situation. Et là, ça c'est possible. Mais donc nous devons absolument faire cette expérience-là. Et en tant que pratiquants, nous devons faire cette expérience. Nous devons voir que la cause, elle est dans notre façon de vivre et de répondre aux phénomènes, à l'ensemble des phénomènes. Et c'est pourquoi dans la langue tibétaine, le terme bouddhiste se dit nangpa, ce qui veut dire, nang veut dire dedans, à l'intérieur. Donc un pratiquant bouddhiste, c'est quelqu'un qui voit la cause de dukkha qu'il expérimente étant à l'intérieur de lui-même. Et ça, c'est primordial, primordial. Tant que nous ne sommes pas sûrs de ça, on va toujours rechercher à modifier une cause extérieure, parce qu'on la considère comme extérieure. C'est un peu une rustine, quoi. Mais ça ne va pas aller jusqu'à à l'essence même de dukkha. Nous sommes comme un médecin qui ne se tromperait de cause engendrant telle ou telle maladie, et qui donne un médicament sans prendre soin, je dirais, de modifier la cause. Vous pouvez prendre les médicaments, ça fait un effet un certain temps, et ensuite, la cause étant toujours présente, il y a le symptôme qui réapparaît. Dans notre pratique bouddhiste, quelquefois, nous sommes comme ça. C'est toujours plus facile de voir la cause de ce qui nous dérange chez l'autre, quoi. Chez le voisin, dans la situation, etc. Mais à un moment donné, en tant que pratiquant bouddhiste, il faut se dire, il y a quelque chose à changer chez moi. Et ça, c'est la deuxième noble vérité. Et c'est pour moi la plus importante, parce que si l'on voit que la cause, c'est cette façon de réagir qu'a mon esprit, mais je peux expérimenter qu'en modifiant cette façon de réagir, il y a une détente qui se crée, et il y a une certaine libération qui est expérimenté par l'esprit. Et là, on touche, en fait, la cessation possible. Si c'est mon esprit qui est la cause de dukkha, c'est mon esprit qui peut être la cause de la libération. Et c'est pourquoi vous avez des grands pratiquants qui, lorsqu'ils sont malades, ils n'en font pas toute une histoire, quoi. Lorsqu'ils rencontrent telle ou telle situation défavorable, ils ne parlent pas que de ça. Et on leur demande, quand on leur demande, mais quelle est la vie pour vous, comment a été votre vie, tel que Tenga Rinpoche l'a répondu, à qui on a coupé les deux jambes, une main, enfin des doigts, retiré un œil, tout ça à cause d'un diabète extrêmement fort, il répond, oh, je n'ai eu aucun obstacle. Il est malade, ou il est un peu dérangé, ou il vit vraiment cela. Pour pouvoir répondre ça, ça veut dire que malgré ses problèmes de santé, eh bien son esprit n'a pas été vraiment perturbé, en souffrance par le fait de rencontrer ces problèmes de santé. La libération, eh bien, c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on peut la trouver. Et je pense que vraiment pour pouvoir la trouver, eh bien, il faut être sûr que la cause de dukkha, elle est à l'intérieur aussi de nous-mêmes. Et je dis bien, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas modifier des situations. Mais est-ce qu'on pourra modifier toutes les situations ? Quand vous êtes sur votre lit d'hôpital, vous savez, quand on vous aura tout administré pour soulager la souffrance, il va falloir faire avec. Hein. Si vous voulez absolument que cette souffrance disparaisse, qu'est-ce qui va se passer ? Comment allez-vous réagir sur ce lit d'hôpital ? Etc, etc. Et c'est par la méditation que nous pouvons voir la cause de dukkha, dans ce fonctionnement de l'esprit ordinaire, et expérimenter aussi la libération de dukkha. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être éveillé, de réaliser l'éveil ou l'état de Bouddha pour faire cette expérience-là. Vous pouvez faire cette expérience-là dès la pratique de shiné, dès la pratique du calme mental comme on l'a fait tout à l'heure. Observez votre esprit. Quand vous avez une pensée par rapport à quelque chose que vous venez de vivre aujourd'hui qui vous a déplu, et que cette pensée, elle retraverse votre esprit, il y a deux possibilités. Soit vous la saisissez, et vous en refaites toute une histoire, et vous la cultivez, vous la moulinez pendant 10 minutes, et vous voyez ce qui se passe au bout de 10 minutes, et dans quel état se trouve votre esprit. Soit vous êtes conscient que cette pensée est là, et vous la laissez passer. Eh bien, vous allez expérimenter que cette pensée, de toute façon, elle n'a pas le pouvoir de demeurer, de rester, et qu'elle ne fait que passer, et que c'est du mouvement, c'est une énergie qui traverse. Et deuxièmement, sans la retenir, eh bien, l'esprit n'est pas perturbé par la présence de cette pensée. Eh bien, si c'est expérimenté une seconde, c'est une seconde de libération. Et là, vous savez que la libération est possible. Et c'est par cette expérience que la méditation, eh bien, deviendra beaucoup plus assidue, qu'on aura vraiment envie de méditer. Pourquoi ? Parce qu'on a tous envie de se libérer de la souffrance. À partir du moment où on voit que c'est la méthode qui vraiment va nous libérer, on a envie ensuite de l'appliquer. Et ça, c'est la quatrième noble vérité. Eh bien, c'est le chemin qui conduit à cette libération, à cette cessation. Donc, ce premier enseignement, hein, les quatre nobles vérités, c'est vraiment l'enseignement fondamental, de base, de tout l'enseignement bouddhiste. Ensuite, le Bouddha, il a enseigné pendant 40 ans, eh bien, il a développé certains aspects de ces quatre nobles vérités. Et je trouve que dans le bouddhisme tibétain, on ne parle pas beaucoup des quatre nobles vérités. Dans le Theravada, hein, dans le petit véhicule, on en parle davantage. Mais de temps en temps, il faut vraiment revenir à cela. Parce que est-ce qu'on en a assez de la souffrance ? Est-ce qu'on a vraiment envie de se libérer ? Comme disait un lama, on en a tous marre du samsara, mais on l'aime bien quand même, quoi. Ben oui, on y est attaché, on y trouve notre compte d'une certaine façon dans le samsara. Et ça, c'est pas quelque chose qui va se produire comme une espèce de miracle dans notre esprit. On va se réveiller un matin avec « Oh, il faut absolument que je me libère, tous les êtres. » Ça, vous savez, on est pétri dans nos tendances. Eh bien, il faut renverser ces tendances et puis redonner de l'impulsion à notre pratique. qu'est-ce que vous faites là ce soir, quoi. De temps en temps, il faut se reposer la question, qu'est-ce que je fais là ce soir? Qu'est-ce que j'attends? Pourquoi est-ce que j'écoute un enseignement? Pourquoi est-ce que j'essaie de le mettre en pratique? Pourquoi est-ce que je mets en pratique la méditation? Qu'est-ce que j'attends de cela? Voilà. Ça, c'est des questions qu'on doit se reposer. La motivation n'est pas quelque chose qui est établi dans notre esprit une bonne fois pour toutes ad vitam. Hein. Ça aussi, c'est un phénomène. Hein. De temps en temps, on se sent très motivé. Il y a d'autres moments, on est vraiment motivé par autre chose. Voilà. Il n'y a pas à porter un jugement, il y a juste à savoir comment on fonctionne. Donc, voilà, le premier enseignement du Bouddha, quelles sont les quatre nobles vérités? La question 2, quel est le mot sanskrit que l'on traduit par souffrance et quel est son sens? Ça, vous avez répondu. Alors maintenant, la question 3, quelles sont les 8 branches de l'octuple sentier? Donc, la quatrième noble vérité, c'est le sentier. Et quels sont ces... C'est l'octuple sentier, donc quelles sont ces 8 branches? Alors, n'essayez pas de déchiffrer hein, ce qui est mal imprimé à côté, la réponse. Hein. Alors, pensez juste, allez-y.
Les moyens d'existence juste.
Mm-hmm.
La compréhension juste.
Compréhension juste.
La parole juste.
Parole juste.
L'action.
Comment?
L'acte.
L'action juste.
La vision juste.
L'effort juste.
L'effort juste.
L'attention juste.
Vous l'avez dit, la concentration juste?
Non,
la concentration juste. Et voilà, les 8 y sont. C'est bon. Qu'est-ce qu'on entend par action juste? Alors, ne pas faire de mauvaises actions. Qu'est-ce qu'on entend par... mauvaise action, ou action négative, on appelle ça action, plutôt action négative dans le bouddhisme. Qu'est-ce qu'on entend par action négative?
Ça va nuire à quelqu'un.
Ce n'est pas suffisant.
À nous, soi et à l'autre.
À soi-même, à l'autre, mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que l'acte.
Il faut qu'il y ait la motivation.
Oui, il faut qu'il y ait l'intention, la motivation qui accompagne l'acte. Et oui, ça c'est très important aussi. Parce que vous pouvez avoir des actes qui en apparence sont négatifs avec une motivation extrêmement positive. Et inversement, des actes qui en apparence sont très positifs, mais guidés par une intention tout à fait négative. Pour tromper l'autre, par exemple, etc. Et ça, c'est très important de se rappeler ça, dans l'action juste. Il y a non seulement le résultat, hein, mais le pourquoi on agit de cette façon-là. Et ça, c'est très important parce que c'est le gros problème du bouddhisme par rapport aux questions de société. Pour le moment, j'en ai parlé à quelques personnes, mais l'Alsace est la seule région en France où vous avez un comité, une commission interreligieuse organisée par la région elle-même. Hein. Donc par le président de région, enfin le préfet de région et les conseillers régionaux. Après ce qui s'est passé en janvier en France, le gouvernement veut absolument qu'il y ait des commissions interreligieuses dans toutes les régions de France. Et que ce soit de gauche, de droite, le gouvernement actuel, mais les autres gouvernements qui aspirent à venir à tête de l'État, ils veulent établir ça aussi. C'est un secret, mais je vous le dis comme ça. Il y a Juppé qui vient demain à Strasbourg, qui dans un restaurant, ni vu ni connu, mais invité par Keller, a demandé à rencontrer le représentant de la communauté bouddhiste d'Alsace. Donc c'est Sacha qui va aller dîner avec Juppé, parce qu'il veut absolument poser des questions sur... ce comité interreligieux et ce que pense le bouddhisme de questions sociales, quoi, sociétales. Bien. Et il y avait 15 jours de ça, à peine, les assises interreligieuses à Strasbourg, où moi j'intervenais pour le bouddhisme, et ce qui a été, donc ça fait 5 ans à peu près que ça existe, 5-6 ans que ça existe au niveau de la région, et ce qui était très frappant, c'est qu'il y avait Keller, Fabienne Keller, il y avait le président de région qui était là, et il y avait, je ne sais plus quel autre, le préfet du Bas-Rhin qui était là. La commission interreligieuse était assez surprise que des politiques viennent et assistent à toutes les assises qui ont duré de 16h30 à 22h et quelques. Et bon, c'était très intéressant, mais tout ça pour dire que... Pourquoi on dit ça d'ailleurs? Pourquoi on parle de ça? C'est dans l'action juste. Oui, c'est dans l'action juste. Et donc, on est très sollicité pour le moment à répondre à telle ou telle question de société, notamment l'euthanasie. Il y a une loi qui se profile sur l'euthanasie. Comment se positionne le bouddhisme? Toutes les autres religions sont extrêmement carrées, quoi. C'est non. Le bouddhisme, c'est ça dépend des cas. Parce qu'il y a l'intention qui est très importante aussi dans l'acte. Ce qui pose un problème au ministère de l'Intérieur parce que on nous dit, oui, enfin, le bouddhisme, vous n'êtes... c'est tantôt oui, tantôt non. Et donc, comment faire une loi à partir de... Ben, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quoi. Voilà. Mais parce que pour nous, c'est évident. On ne peut pas déterminer que ça, c'est négatif ou ça, c'est positif. Parce que ça doit être accompagné de l'intention. Bon, et l'action juste, l'éthique va se baser sur cette action juste. Alors, quels sont les trois actes négatifs du corps que l'on va s'efforcer d'éviter ? Non, ça, c'est un acte positif. Donc, l'acte négatif, c'est tuer. Absorber des drogues, non ? Oui, mais c'est pas dans... Non, c'est... Tuer, on va éviter de tuer, éviter de voler et éviter d'avoir une inconduite sexuelle. Voilà. Ça, c'est les trois actes négatifs du corps qui forment l'éthique. Voilà. On verra après la parole et la pensée avec la parole juste et la pensée juste. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'action juste. Vous avez dit après la parole juste. Alors, la parole juste. Alors, si vous reprenez les 10 actes négatifs, il y en a 4 de la parole. Mentir, hein, qu'on va s'efforcer de ne pas mentir. Donc, mentir.
Calomnier.
Les paroles blessantes. Et puis parler pour ne rien dire. Qu'est-ce que... Comment on appelle ça, ces paroles? Les paroles futiles. Les paroles futiles. Alors, d'après les textes, les paroles futiles, hein, ça, c'est toutes les paroles qui n'ont aucun intérêt pour notre avancement spirituel. Donc, hein. Et puis, c'est toutes les paroles aussi qui, pour nous, n'ont aucune incidence, mais qui peuvent avoir une incidence dans l'esprit de l'autre. Donc, il y a une grande surveillance quand même de notre parole. Des plaisanteries ou critiquer quelqu'un alors qu'on n'a pas l'impression de porter atteinte à la personne, eh bien, ça peut faire démarrer une rumeur, ça peut... Et donc, faut être prudent, quoi. Et puis, les paroles justes, eh bien, c'est plutôt la parole juste, c'est aussi la parole, toutes les paroles positives, plutôt d'encouragement, plutôt... des paroles positives, au lieu de toujours parler de ce qui ne va pas. Et ça, il y en a des tombereaux tous les jours, hein, ce genre de paroles. Plutôt se taire là-dessus et mettre en avant ce qui va, quoi. Je disais tout à l'heure, hein, je connais des personnes, ça ne va jamais, quoi. Mais jamais. Il y a toujours un nerf qui coince, une jambe qui ne va pas. Si ce n'est pas ça, ben c'est le fils qui a autre chose. Il y a un moment donné, au bout de trois quarts d'heure, on a envie de leur dire, bon, d'accord, mais qu'est-ce qui va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va, quoi, dans votre vie, quoi? Parce que si rien ne va, mais où est le gaz, quoi? Parce que franchement... Non, mais toute une soirée où on ne vous parle que de ce qui ne va pas, il y a quand même... Alors, je sais bien que les médias, c'est ça. Hein? Voilà, on est un peu formaté par tout ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de personnes dans notre entourage, et nous-mêmes aussi, eh bien, qui avons des petites actions pour que ça aille mieux à droite et à gauche. Il y a plein de petites lumières partout. Seulement, ça, on n'en parle pas beaucoup, et apparemment, ça n'intéresse personne. Mais ça fait partie des paroles justes aussi, ça. Ça peut réconforter, ça peut aider à vivre, ça peut aider à traverser un moment ou une période difficile, etc. quoi. Les pensées justes. La pensée juste. Qu'est-ce qu'on entend par la pensée juste? Hey, pourtant, hein, y a un premier aspect de la pensée juste. Ouais. Ça, personne n'y pense, justement. Mais on n'aime pas trop. C'est la pensée de renoncement. La pensée de renoncement. Et à quoi renonce-t-on? À dukkha. Voilà. Samsara ou dukkha. Et ça, c'est la pensée de renoncement. Vous savez, dans le grand véhicule, on parle de la bodhicitta. Il faut développer la bodhicitta par tous les moyens. S'il n'y a pas la pensée de renoncement à dukkha, comment voulez-vous développer la bodhicitta? Comment voulez-vous prendre soin de vous-même et prendre soin des autres s'il n'y a pas cette pensée de renoncement par rapport à dukkha? Comment pratiquer une voie de libération si on ne renonce pas à dukkha? C'est la base. Hein? Quand vous observez, quand vous lisez la vie du Bouddha, le Bouddha était, après tout, il vivait très bien, hein, c'était le fils d'un Maharaja, le fils d'un roi, etc. Il avait une femme, il avait un gosse. Vraiment, apparemment, tout allait bien. Il a pris conscience de quoi? Il a pris conscience de dukkha. On dit qu'il a rencontré une personne âgée, qu'il a rencontré... Voilà, ça c'est allégorique, mais il a pris conscience de dukkha, que lui-même ne pouvait pas échapper à dukkha malgré tout le confort qu'il avait, et que personne n'échappait à dukkha. Eh bien, ça a été la base de sa quête de la libération de dukkha. Si après tout, il s'était dit, « Oui, ben, ma foi, c'est comme ça, la vie, c'est comme ça », ben, il n'aurait jamais réalisé l'éveil. Donc, ça a été très fort pour lui de trouver, eh bien, une porte de libération à dukkha, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les êtres. Et je crois qu'en tant que bodhisattva, eh bien, nous devons avoir ce renoncement à dukkha. Ça va être un peu notre énergie pour continuer d'avancer sur le chemin et de faire en sorte de modifier ou transformer notre façon de fonctionner. Ensuite, la pensée juste. Eh bien, dans les 10 actes non vertueux, vous avez 3 actes par la pensée que l'on va éviter. Ces 3 actes sont la convoitise. Non, ça va avec la convoitise. La pensée malveillante. La pensée malveillante. Et puis, les vues erronées. Les vues erronées, c'est principalement de tomber dans les extrêmes que sont l'éternalisme et le nihilisme. L'éternalisme, c'est de croire en l'existence intrinsèque ou l'existence propre à tel ou tel phénomène, mais non seulement au phénomène, mais à l'individu aussi. Et le nihilisme, c'est de dire que la vacuité, c'est synonyme de non-existence. Bon, ben ça, c'est deux tendances dans lesquelles on va éviter de tomber. Ça fait partie des pensées, des vues erronées, quoi. Après, alors, action, parole, pensée, attention juste. La vigilance, à quoi elle sert, la vigilance ?
À observer ce qui se passe dans l'esprit.
Oui, à observer ce qui se passe dans l'esprit et à rectifier par rapport à ce qui se passe dans l'esprit. L'attention ou la vigilance, ce n'est pas, ça ne consiste pas à empêcher de ce qui, de se passer, de ce qui, comment dire, empêcher ce qui doit se passer dans l'esprit. Si vous avez telle ou telle pensée qui s'élève dans l'esprit, il n'y a pas à empêcher cette pensée. Mais être conscient de la présence de cette pensée et surtout être conscient de la réaction que, à l'état ordinaire, eh bien, ça fait naître dans notre esprit. Et ça, donc là, il faut une vigilance. C'est vraiment l'attention juste. Être conscient. C'est pourquoi Thich Nhat Hanh a appelé son école, l'école de la pleine conscience. Être pleinement conscient de ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment l'attention juste. Les moyens d'existence juste. Comment ?
Avoir un métier honnête qui ne fait pas de mal.
Avoir un métier honnête qui ne fait pas de mal à autrui. Qu'est-ce que, par exemple, on va éviter en tant que bouddhiste, selon l'éthique bouddhiste ? Oui. Travailler, par exemple, dans le domaine des armes.
Hein ?
Voilà, dans une profession qui tue des animaux, par exemple. Alors après, c'est aussi en fonction de ce que vous pouvez faire. Si vraiment, moi j'ai connu quelqu'un qui était allé voir Kalu Rinpoche, l'ancien Kalu Rinpoche, et qui travaillait dans un abattoir. Et c'est vrai que ça lui posait un problème de conscience à cette personne. Et Kalu Rinpoche lui a dit, mais pouvez-vous changer de métier ? Et il a dit, non, ça va être très difficile, je ne sais rien faire d'autre. Quoi. Et alors, Rinpoche lui a dit, récitez des mantras au moins pour tous les animaux qui passent entre vos mains. Quoi. Hein ? Mais on ne peut pas dire que ce soit à ce moment-là considéré comme un moyen d'existence juste. Quoi. Les armes, ça c'est clair. Je ne sais pas si vous étiez à Bercy, quand le Dalai Lama, il y a quelques années, était venu à Bercy. Il avait commencé sa conférence en parlant de ça. En parlant du karma de la France par rapport au fait que la France était le troisième producteur mondial d'armes. Il ne trouvait pas ça que c'est très... Et puis, oui, il y a même, par exemple, travailler dans un débit de boisson, c'est pas vu comme quelque chose de franchement positif. Voilà. Bon, après... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? L'effort juste. Qu'est-ce que c'est que l'effort ? Je rappelle l'effort en tibétain, c'est tsundru, c'est-à-dire l'énergie enthousiaste. C'est pas la contrainte, c'est pas la corvée.
La discipline ou la persévérance ?
Oui, c'est ça. Donc.
C'est avoir envie de le faire.
Alors, il y a avoir envie de le faire. Mais est-ce qu'on ne pratique que seulement lorsqu'on a envie de pratiquer ? C'est en fait la régularité dans la pratique. Ça fait partie de l'effort juste, la régularité dans la pratique. C'est se dire, je ne vais pas me coucher si je n'ai pas fait ma demi-heure de pratique terminée. Quoi. Et c'est clair qu'il y a des jours, ça va demander un effort. Voilà. Alors, effectivement, pour avoir cette... énergie enthousiaste, eh bien, il faut savoir pourquoi on médite. Après tout, personne ne nous oblige à méditer. Ce n'est pas notre famille qui nous oblige, personne ne nous oblige. Donc, on y trouve quand même quelque intérêt dans le fait de pratiquer le dharma, quoi. Et ça, pour les anciens qui ont pris refuge un jour, qui se sont engagés dans la voie, de temps en temps, il faut un peu se rappeler ce qui nous a poussé à nous engager. Hein ? parce que voilà, avec la routine, avec tout ce qu'on a à faire dans ce monde, eh ben, il y a des fois on oublie un petit peu la motivation qui un jour nous a décidé à prendre refuge, alors que personne ne nous a, là encore, personne ne nous a obligés à prendre refuge. On l'a fait de notre plein gré. Hein. Et l'effort juste, c'est aussi l'effort à développer toutes les qualités qui sont en nous. Toutes les qualités que l'on sent en nous-mêmes, eh bien, c'est faire l'effort de trouver des moyens pour développer ces qualités. Et inversement, c'est faire l'effort de réduire toutes les dispositions négatives de l'esprit. Donc nos facteurs perturbateurs, faire l'effort de ne pas se laisser aller à l'expression de ces facteurs perturbateurs. Donc c'est assez proche aussi de l'attention juste. Hein. On a besoin de l'attention, on a besoin de la vigilance pour cet effort. On voit bien hein, dans toutes ces points de l'octuple sentier qui touchent à l'éthique, c'est toujours en relation avec l'autre, avec autrui. Hein. Après l'effort, qu'est-ce qui nous manque ? Alors, concentration. Alors, vous savez que concentration, c'est un mot que je n'aime pas trop, parce que ça donne cette image d'un esprit absolument étroit, pointu sur un point, et que concentration, en tibétain, ça se dit samten. Samten, littéralement, c'est esprit stable. Esprit stable. Stable. Et l'esprit peut être stable alors qu'il est traversé par des centaines et des centaines de phénomènes tels des pensées ou des sensations. Donc l'esprit peut être stable alors qu'il est extrêmement détendu et large. Donc la concentration juste, ça serait plutôt la non-distraction, qu'on pourrait appeler la non-distraction. Et ça, c'est quelle pratique qui va vraiment nous former à cette non-distraction ? Chiné, le calme mental, shamatha. Ça, c'est le calme mental. Et puis, la compréhension juste, ça touche quoi ? Oh, la révision. La compréhension juste, eh ben, ça va toucher à l'aktong, à la vision pénétrante, à vipassana, c'est-à-dire en fait comprendre la nature de tous les phénomènes et de l'individu. C'est-à-dire la méditation sur le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes. Comprendre, avoir une compréhension, déjà dans un premier temps intellectuelle, mais une compréhension qui va dépasser cette compréhension intellectuelle, c'est-à-dire qui va se transformer en expérience sur le fait que les phénomènes eh bien, sont tous impermanents, que les phénomènes sont tous, apparaissent tous en dépendance de causes, et qu'il n'y a pas un seul phénomène, une seule situation, eh bien, qui apparaît, qui existe par lui-même, en lui-même. Et de même pour l'individu. Les individus existent tous par interdépendance de toutes choses. C'était très drôle aux assises interreligieuses, le thème, c'était la fraternité en action. Donc, on était 7 ou 8 représentants de différentes traditions, et chacun y allait pendant, en gros, 7-10 minutes, ce que c'était, comment on pouvait, dans notre tradition, pratiquer la fraternité en action. C'était très drôle de voir les juifs, de voir les chrétiens, de voir les musulmans, même les hindous, qui sont intervenus. En fait, il faut être fraternel parce que Dieu le demande. Il faut être fraternel parce que c'est écrit dans les textes. La sourate numéro tant, Matthieu dit que, dans l'Ancien Testament, etc. Tous étaient, oui, je m'efforce d'être fraternel parce que ben, Dieu me le demande, c'est dit dans les textes, etc. Il n'y en a pas un qui tablait qui basait le devoir d'être fraternel sur le pourquoi être fraternel. Et en fait, alors nous, moi je tenais pas vraiment à faire référence à tel texte, donc j'ai beaucoup parlé d'interdépendance. L'interdépendance est une expérience qu'on vit tous les jours. On ne peut pas exister une seule seconde sans dépendre des uns et des autres. On a l'impression qu'on oublie ça et on a l'impression qu'on peut vivre d'être totalement autonome, je vis tout seul et je ne m'intéresse pas aux autres, etc. Mais ça, c'est une illusion complète. On ne peut pas se nourrir, on ne peut pas exister, on ne peut pas s'habiller, on ne peut rien faire sans dépendre des autres. Et je vois bien que dans mon environnement quotidien, l'attitude des autres va avoir une influence quand même aussi sur moi. Et ça veut dire que mon attitude va avoir une influence sur les autres. Et ma façon de faire, ma façon de vivre, les choix de vie, etc., eh bien, ça va avoir une influence sur les autres. C'est ça l'interdépendance. C'est pour ça que Thich Nhat Hanh parle, il ne dit pas « je suis », il dit « j'intersuis », de façon imagée. C'est l'inter-être. Et on n'a pas d'autre choix que d'être fraternel. Et la bodhicitta, ça doit se baser sur une compréhension de comment nous vivons, quoi. Parce que sinon, on applique quelque chose, mais si on n'en comprend pas vraiment le sens, le jour où on n'a pas envie d'être fraternel, qu'est-ce qu'on fait? Il y a bien des jours, vous savez. Donc il faut absolument avoir la compréhension. Et ça, le Bouddha expliquait beaucoup ça dans les textes, c'est clairement dit. Il faut avoir la compréhension de ce que l'on fait. Pourquoi nous le faisons? Et ce n'est pas parce qu'on nous dit de le faire. Alors, est-ce qu'on a développé les 8 points de l'octuple sentier là? L'action, l'attention, la pensée, la parole, moyen d'existence, effort, concentration et compréhension. C'est bon. Alors, quatrième point. Quels sont les objets de refuge dans le Vajrayana? Vajrayana, c'est le bouddhisme tibétain. Marie-Vonne? C'est pas propre au Vajrayana, ça. C'est dans toutes les écoles, ça. Donc, lama, yidam, protecteur. Ouais. Protecteur. Lama, c'est la notion de lama racine dans le bouddhisme Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain. Le lama racine, c'est l'individu qui représente pour nous l'état de Bouddha totalement accompli, et qui, avec qui on peut avoir une relation basée sur la confiance mutuelle. Et cette relation, elle doit se construire, cette confiance, elle se construit. C'est pas simplement parce que... voilà. Les yidam, c'est les symboles de méditation qu'on utilise dans le Vajrayana. Toutes les divinités que vous voyez là, tout ça, ce sont des yidam, des symboles de méditation. Le mot yidam, on le traduit par divinité ou déité, mais c'est une erreur. Il n'y a pas de divinité dans le bouddhisme. Et non plus dans le Vajrayana. Il y a des symboles de méditation. Vous savez, le week-end dernier, il y avait un week-end de pratique Amitabha à Luce. Alors, il y avait des explications de la pratique. Et il y a une personne qui me dit, mais alors, le Bouddha Amitabha, il n'a jamais existé? Je dis, non, il n'a jamais existé. C'est pas un Bouddha historique, quoi. Mais alors, elle est tombée des nues. J'ai démoli, mais alors, toute sa... peut-être des années de croyance qu'elle avait, elle croyait, mais dur comme fer, que le Bouddha Amitabha a existé à une époque très très lointaine, mais voilà. Non, les yidam, c'est pareil. Chenrezig n'existe pas. C'est un symbole de méditation qui symbolise différentes qualités de notre nature de Bouddha. En l'occurrence, pour Chenrezig, l'amour et la compassion. Voilà. Et donc, il faut décortiquer le symbolisme et savoir comment utiliser tel ou tel symbole. Parce que sinon, comme dit Khandro Rinpoche ou Dzongsa Rinpoche, les Occidentaux, vous pratiquez le Vajrayana de façon théiste. Et ça, c'est quand même un problème, quoi. Et les protecteurs, alors ? Oui, mais c'est quoi ? Oui ? Qui veulent dire quoi ? Oui, alors pourquoi c'est courroucé ? C'est représenté de façon courroucée.
Comme un parent vis-à-vis des enfants, quoi, pour faire peur.
Pour faire peur ?
Oui.
Non, utilisez plutôt le mot fermeté.
Fermeté.
Mais ça représente quoi, alors ?
Les obstacles
que vous rencontrez dans le quartier. Oui, mais qu'est-ce qui fait... comment vous avez dit, le premier terme ?
Repousse les...
Mais qui repousse ? Vous invoquez Mahakala Chadrupa, et parce que vous le priez, vous lui faites une offrande de torma, et alors il va repousser les obstacles.
C'est nous-mêmes qui devons renoncer à certaines attitudes.
Les protecteurs, on appelle ça des protecteurs de sagesse. Donc ça veut dire que c'est notre nature de Bouddha, les protecteurs. C'est comme les yidams. Ce sont des yidams, mais courroucés. Mais ils sont courroucés parce qu'ils sont violents. C'est-à-dire que pour mettre fin à notre saisie égotique, il y a quelquefois on a besoin de la méthode douce. Mais parfois, ça ne suffit pas. Il faut utiliser une méthode violente et qui tranche. Et c'est pourquoi les protecteurs ont des attributs qui coupent, qui tranchent, qui transpercent, etc. Et ça, c'est l'attitude qu'on peut avoir en tant que parent, par exemple, avec compassion et amour pour votre enfant, qui ne fait qu'une bêtise et qui continue de n'en faire qu'à sa tête, par exemple. Vous allez d'abord lui expliquer par la méthode douce, mais s'il continue de s'approcher du précipice, vous allez quand même aller le prendre et lui dire non, quoi. Et vraiment, là, cette fois, le retenir. Même s'il n'est pas d'accord et qu'il pleure, parce qu'il a envie d'y aller... C'est pas pour le faire pleurer et pour le faire souffrir que vous agissez de cette façon-là. C'est vraiment pour qu'il comprenne. Cette attitude-là, nous devons l'avoir par rapport aussi à un mode de fonctionnement. Quelquefois, on est un peu trop tchenrezi, quoi. Si je ne comprends pas aujourd'hui, je comprendrai demain. Il faut y aller progressivement. Bon, etc. Il y a des tendances dans notre esprit. À un moment donné, il faut dire non. Il faut stopper, quoi, avec fermeté. Il faut couper. Et regardez le karmapa actuel. Hein. Il doit avoir un caractère coléreux. Eh bien, il a fait le vœu de ne jamais se mettre en colère de sa vie, quoi. Ben c'est être un protecteur. Il n'a pas dit, il ne s'est pas dit, bon, je vais m'efforcer. Il a décidé. Un jour, il a dit non, il est terminé. Rinpoche Rinpoche, il avait raconté un jour à Luce que tout petit, il aimait se battre avec ses petits copains. Et qu'un jour, il a pris conscience que ce n'était pas juste, eh bien, il a décidé de ne jamais plus se battre avec ses copains, quoi. De temps en temps, il faut être un protecteur aussi avec certains modes de fonctionnement de notre esprit, quoi. Parce qu'alors sinon, ça n'avance pas, quoi. Ou du moins, ça n'avance pas vite, quoi. De temps en temps, il faut couper, quoi. Voilà, ça sert à ça, les protecteurs.
On se donne un bon coup de pied aux fesses.
Oui, c'est surtout comme ça, un engagement. Il n'y a pas à revenir là-dessus, quoi. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément facile, hein. Et comme disait Trungpa Rinpoche, c'est une façon de couper, de dire non. Mais c'est une opération chirurgicale sans anesthésie, quoi. J'en ai assez. Et ça fait référence, là encore, eh bien, à dukkha. Je ne veux plus de ça, parce que ces causes, ça n'engendre que dukkha, pour moi-même et pour autrui, quoi. À un moment donné, il faut dire non, quoi, stop. Voilà, c'est cette attitude-là, protecteur. Alors, citer les paramitas. Que veut dire d'abord le mot paramita ? Vertu transcendante, ça c'est la façon de traduire paramita, et ce qui veut dire donc aller au-delà. Ça permet d'aller au-delà. Au-delà de quoi ? Sous-entendu. Au-delà du samsara. C'est-à-dire de traverser, on dit traverser l'océan du samsara, c'est-à-dire en fait de réaliser l'éveil ou d'atteindre la rive de l'éveil. Ça, c'est le mot, c'est le sens du mot paramita. Et il y en a combien ?
Six.
Qui sont ? Alors dites-les dans l'ordre. Le don. L'éthique.
Patience,
persévérance,
concentration
et connaissance. Ouais. Donc le don, l'éthique, patience, persévérance, concentration et connaissance transcendante. Et dans le don, quelles sont les trois formes de don ? Don et générosité, c'est synonyme. Hein. Le don matériel, très bien. Le don du dharma, il y en a un entre les deux. Le don de la protection. C'est important ça aussi, le don de la protection. Hein. Quand on devient bouddhiste, on dit qu'on prend refuge. Eh bien, on doit, à ce moment-là, se sentir être un refuge pour les êtres. Évidemment, dans la limite de nos possibilités, évidemment. Mais protéger l'autre qui a besoin d'être aidé, d'être protégé, eh bien, si c'est dans nos possibilités, c'est pratiquer la générosité ou le don de la protection. Les Tibétains sont très sensibles à ça, hein, vis-à-vis des animaux, par exemple. S'il y a des insectes qui sont en passe d'être zigouillés, eh bien, ils vont trouver des solutions pour eh bien, faire en sorte que ces insectes partent. C'est pareil, quand ils cultivent la terre, ils vont être attentifs, par exemple, à tous les vers de terre qui sont là. Et évidemment qu'ils vont en rater, mais tout ce qu'ils peuvent sauver, eh bien, ça fait partie du don de la protection. Et puis le don du dharma. Alors ça aussi, le don du dharma, c'est important. Il n'y a pas besoin d'avoir une robe bordeaux avec des yeux bridés pour pratiquer le don du dharma. En sachant, et il faut se le rappeler, que le prosélytisme est interdit dans le bouddhisme. Mais par contre, si une amie à vous, une personne que vous connaissez et vous dit un jour, mais tiens... tu pratiques le dharma, qu'est-ce que c'est que le dharma ? Ben, à ce moment-là, toujours dans la limite de nos possibilités, mais on doit répondre. On doit répondre à ça. Voilà. Et ça, c'est donc les trois formes de dons. Bon, la question 7, on y a répondu. Quels sont les 10 actes négatifs ? Hein ? Les 3 du corps, 4 de la parole et les 3 de l'esprit, ça, on les a vus. Quels sont les actes aux conséquences incommensurables? Et pourquoi les appelle-t-on ainsi? D'abord, il y en a combien?
5.
4?
5.
Plus? 5, ouais. 5. Et quels sont-ils?
Tu es son père, sa mère.
Pardon?
Tu es son père.
Oui.
Tu es sa mère.
Oui.
Tu es la maître, un arabe, un lama.
Tu es un maître spirituel.
Blesser un
être éveillé.
Et semer la discorde dans la sangha.
Voilà. Créer un schisme dans la sangha. La discorde dans la sangha. Donc ça, c'est les cinq actes aux conséquences incommensurables. Donc tu es son père, tu es sa mère, tu es un maître spirituel, blesser un Bouddha et créer un schisme. Pourquoi est-ce qu'ils sont dits incommensurables, aux conséquences incommensurables ? Ouais. Si on ne les a pas purifiés, au moment de notre mort, c'est direction, mais alors les mondes inférieurs, les plus inférieurs, et immédiatement. Alors, on parle de purification, est-ce que ces actes-là peuvent être purifiés dans le dharma ?
Ah oui ?
Tous les actes négatifs peuvent être purifiés dans le dharma ?
Oui.
Oui, absolument. Absolument. Il n'y a pas de notion dans le dharma, il n'y a pas la notion de péché mortel, entre guillemets. Tous les actes négatifs que nous avons accomplis, quels qu'ils soient, même le plus ignoble qui soit, peut être purifié dans le dharma. Ça, donc ces cinq actes aux conséquences incommensurables peuvent être purifiés. Il faut quand même certaines conditions pour que les actes négatifs soient purifiés. Bon, mais si on remplit ces conditions, tous les actes sont purifiés. Et quelles sont ces conditions? Il y en a quatre. On appelle ça les quatre. Les quatre forces. On appelle ça les quatre forces. Et la première de ces quatre forces, c'est la force du regret. Regretter d'avoir accompli ces actes négatifs. Et j'insiste là-dessus, c'est le regret, quoi. Il faut que le regret soit sincère, soit clair, mais ce n'est pas la culpabilité, ce n'est pas comment, le sentiment, comment on appelle ça, la honte, c'est le regret. C'est vraiment se dire, j'ai accompli tel acte négatif, je le regrette vraiment sincèrement. Bon. La deuxième force, elle suit la force du regret, c'est la force de la détermination à ne pas reproduire cet acte-là. Il faut que ce soit quelque chose de déterminé, quoi. D'où la pratique des protecteurs. Et ensuite, c'est la force très importante, la force du refuge. La force du refuge. Il faut être certain, avoir confiance que nous trouvons en nous-mêmes la force de ne pas reproduire de tels actes. Et c'est ça le gros problème de beaucoup de personnes qui se disent tellement nulles, qui pensent que de toute façon elles vont traîner leur casserole, mais alors ad vitam, parce que ce que j'ai accompli, comment est-ce que j'ai pu accomplir ça, la culpabilité, etc. Ce n'est absolument pas positif. Il y a un moment donné, il faut se dire, ok, je fais des tas d'actes négatifs. D'accord. Est-ce que je n'accomplis que des actes négatifs? Non. Il y a aussi des actes positifs que j'accomplis. Et tout le monde ici a accompli aujourd'hui des actes positifs. On a peut-être accompli des actes négatifs, mais on a aussi accompli des actes positifs. Alors au lieu de toujours mettre l'accent sur les actes négatifs, regardons plutôt les actes positifs que nous sommes à même d'accomplir. Nous avons tous témoigné de l'amour, de la gentillesse, de la bienveillance, peut-être de la tendresse, un soutien quelconque, etc. Et ne serait-ce qu'au cours de cette journée. Eh bien ça, ce sont des qualités qui expriment notre nature de perfection, notre nature de Bouddha. Et le refuge, c'est là-dedans. C'est dans cette nature de perfection. Refuge, ça veut dire placer sa confiance, mais dans cette potentialité d'amour et de compassion qui ne demande qu'à se développer, quoi. Et je peux trouver là-dedans, le moyen de ne pas reproduire tel acte négatif. Au lieu de toujours mettre l'accent sur ce qui ne va pas, mais levons-nous le matin en nous disant, alors tout ce qui est positif chez moi, comment je vais m'en servir au cours de cette journée? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour développer plutôt ces qualités? On verra la vie un peu moins en noir. Et on aura peut-être davantage de sens aussi à donner à notre existence. C'est une grande confiance qu'on peut avoir en soi. Un pratiquant bouddhiste qui n'a pas confiance dans sa nature de Bouddha, vous savez, je ne sais pas trop comment il peut pratiquer le dharma. Et alors, d'autant quand on est dans le Vajrayana, les yidam, ça représente justement nos qualités. Si nous voulons faire la pratique de Chenrezig, c'est parce que nous sommes amour et compassion, quoi. Et bien, vous savez, si vous n'êtes pas sûr d'être amour et compassion, même si ce n'est pas extrêmement développé de façon vaste et équanime, mais si vous n'êtes pas sûr d'avoir de l'amour et de la compassion, vous allez chercher longtemps Chenrezig. Donc ça, c'est très important, c'est la force du refuge. Et enfin, la dernière force, la force de l'antidote. avec pour principal antidote l'établissement de la vigilance, être vigilant à ce qui se passe dans mon esprit. Et puis, il y a des pratiques de purification, telles que des pratiques telles que Vajrasattva, par exemple. Voilà. Mais quand ces quatre forces sont réunies, tous les actes négatifs que nous avons accomplis sont totalement purifiés, quoi. Alors, encore deux questions. Quelles sont les deux sortes de karma ? Ne me dites pas positif et négatif. Vous répondez trop vite. Mais c'est ça, ouais, ouais. Le karma individuel et le karma collectif. Qu'est-ce qu'on entend par karma collectif ? Pardon ? Non, mais comment, je veux dire, ça fonctionne ?
Ça ne dépend pas que de nous.
Oui.
Les gens autour de nous aussi, là où on vit.
C'est ça. D'autres individus créent les mêmes causes que nous. Donc ces causes étant identiques, elles vont produire un effet identique. Et c'est comme ça que, par exemple, là, nous avons un karma collectif. C'est le fait de se réunir ici ce soir, d'être présent ce soir. Et bien ça, il y a une cause qui nous a permis à tous, là, ce soir, et bien d'être présent ce soir. Quelle est la cause ? Ça, c'est difficile à percevoir. Mais en tout cas, rien ne se produit sans cause, d'après la relation de causalité. Donc le fait de pouvoir être là, tous ensemble ce soir, il y a une cause qui nous est commune et qui nous permet d'être ensemble. Après, la différence qui existe entre nous tous, eh bien ça fait partie du karma individuel. Voilà. Alors ça marche aussi hein, pour le karma positif et pour le karma négatif. Hein. Et enfin, quels sont les critères qui déterminent qu'un acte est négatif ? Ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est l'effet de souffrance qu'il occasionne sur autrui, et c'est aussi la motivation ou l'intention avec laquelle cet acte est accompli. Voilà, puis on s'est arrêté là dans les autres Tchuling. Alors, les questions 11, 12, 13, bon, ça va être très facile à y répondre puisque c'était le sujet des enseignements des mois précédents. Hein. Voilà. Après, hein, quelles sont les sept branches d'une prière à sept branches ? Ça, alors vous pouvez chercher pendant le mois qui vient, si vous voulez. Mais voilà, bon, je trouve que ça fait une bonne révision quand même d'éléments bah, qui sont assez fondamentaux dans la pratique du dharma, quoi. Donc voilà pour les 40 questions. Donc on continuera le mois prochain. Et peut-être qu'avant la petite fête du mois de juin, ben on finira si on n'a pas fini la fin des questions. Quoi. Des questions là-dessus ? Vous savez autre chose, vous savez que le week-end, alors c'est bon, c'est le week-end des reliques ici, hein, mais le week-end du 5-6 juin, c'est la fête du Bouddha, la dixième fête du Bouddha à Strasbourg, donc on a changé complètement le concept, il n'y a plus de stand individuel, il y a un grand stand de la CBA, c'est-à-dire la communauté bouddhiste d'Alsace, il y a les écoles qui sont invitées le vendredi et le samedi matin, à venir visiter, poser des questions. Et puis, le thème cette année, c'est les habits monastiques. Donc, il y aura une exposition sur des mannequins, des vêtements monastiques selon les différentes écoles, avec l'explication. Parce qu'en fait, il y a peu de gens qui savent pourquoi chez les Tibétains c'est Bordeaux, à quoi, que signifie cet habit, etc. Il y aura une conférence aussi, mais bon, on vous enverra le programme. Il y aura une conférence le dimanche après-midi. On peut manger sur place. Il y aura des sandwichs vietnamiens en vente sur place à midi. Enfin, voilà. Si vous pouvez venir, hein. Bienvenue, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Comme chaque année, la ville de Strasbourg met à notre disposition gratuitement le pavillon Joséphine dans le parc de l'Orangerie. Voilà, comme chaque année. Vous savez maintenant que la CBA, la communauté bouddhiste d'Alsace, a un lieu à Strasbourg. Hein, c'est l'ancien octroi, en face du Conseil de l'Europe, qui est mis à notre disposition. Et il y a des gens qui passent, poser des questions. Et, voilà, il est un peu excentré, hein, c'est près du Parlement, quoi. Donc c'est un peu excentré, mais il y a des permanences l'après-midi. Et c'est bien d'avoir un lieu comme ça où les personnes de passage peuvent venir se recueillir un moment ou s'informer si elles ont besoin de s'informer. Voilà, que dire d'autre? On est rentrés vivants de l'Inde. Tous. Ça va. L'école aujourd'hui, il y a 325 enfants. Ça a encore bien, ça a augmenté depuis qu'on y était. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et en gros, oui, tout se passe bien.
Est-ce qu'on connaît le thème de l'enseignement de Rinpoche?
Alors, il faut encore que je lui envoie un mail pour lui signifier ça. J'ai envie de lui demander les quatre abandons, les quatre formes d'abandon, non, les quatre abandons à l'attachement. Parce que il y a une phrase qui dit, alors je ne sais pas par cœur, mais il y a une phrase qui dit si nous sommes attachés au samsara, nous n'avons pas abandonné l'attachement. Non, si nous sommes... Non. Oui, il y a quelque chose comme ça. Si on n'a pas abandonné l'attachement à nos facteurs perturbateurs, on manque de bodhicitta... Enfin voilà, il y a quatre phrases comme ça, et je trouve que ça peut être un bon sujet. Rinpoche est arrivé en Europe. Il est en Allemagne, là. Il est en Occident, c'est incroyable, il est en Occident jusqu'en quelque chose comme octobre. Il va simplement une semaine se reposer en Inde entre, mais vraiment une semaine. Il y a un jour, il sera en Finlande. De la Finlande, il doit aller en Indonésie. Trois jours après, il revient en Allemagne ou je ne sais pas où. Et il va ensuite aux États-Unis, Amérique du Sud, il doit aller en Afrique du Sud aussi. Là, il fait vraiment un grand tour, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui se sont déjà inscrits pour le séminaire à Porto. Cette année, c'est Rinpoche qui a décidé le thème. Hein. Et c'est pratique préliminaire, accumulation. Donc en fait, ça va être de la pratique. Avec les enseignements de Rinpoche, mais je pense que ça va être de la pratique. Alors ça, c'est intéressant de voir comment il va aborder ces pratiques. Et puis, ça me fait dire aussi que, apparemment, depuis 10 ans qu'il enseigne, dans le cadre de ses séminaires internationaux, eh bien, il commence à percevoir que certaines personnes ont la vue. C'est-à-dire la base de la compréhension de la nature, de l'esprit. Même si on n'en a pas encore l'expérience, on commence à savoir de quoi on parle quand on parle de la vacuité, par exemple, ou de la clarté de l'esprit. Donc on va voir comment il aborde ça. Voilà. Pour les nouvelles. Et vous, rien de votre côté? Pas de nouvelles? fait la dédicace et on continue de l'autre côté. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Merci.